Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le psaume 91. Psaume 91, juste un verset. Ceux qui connaissent la Bible connaissent sûrement ce psaume-là. Et on va s'intéresser à un aspect qui est donné dans les tout premiers versets de ce psaume. Psaume 91, verset 1er. Je vois mes fils qui ont un petit Nouveau Testament de Gédéon là. Et heureusement, il y a les psaumes. Donc c'est moi, ils peuvent suivre. Mais après, ils pourront pas suivre parce que ce sera dans Job. Et là, c'est l'Ancien Testament. Alors, psaume 91, verset 1er. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, je voudrais m'intéresser à cet aspect, à cet éclat du joyau divin, ce terme tout puissant. Et ce verset en parle même de l'ombre du tout puissant. Il y a un endroit où un individu peut se trouver à l'ombre du tout puissant. C'est une qualification de Dieu, et c'est une bonne qualification. C'est pas d'ailleurs anodin que j'ai choisi ce premier chant. Dieu tout puissant, comme mon cœur considère. Parce que j'avais ce texte en mémoire. Est-ce que ce matin nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce que ce matin nous avons la certitude, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est juste à côté de nous et que nous on est derrière, protégés. Vous savez, dans ce psaume, il y a question du soleil qui est comme le symbole de l'épreuve. Parfois le soleil représente Dieu, la bénédiction de Dieu, mais parfois le soleil dans la Bible représente l'épreuve. Et parfois le soleil, il tape fort. On a connu les canicules un petit peu cet été. Encore hier, c'était pas mal. Hein. Mais parfois, c'est l'épreuve dans notre vie qui tape fort. Et dans ces moments-là, on peut trouver un lieu qui s'appelle l'ombre du Tout-Puissant. Alors, on va aller dans Job, au chapitre 22. Et on va écouter ce que dit un ami de Job. Alors, est-ce que les amis de Job ont été de bons amis? Vous qui connaissez l'histoire. Pas trop. Ils ont essayé comme ils ont pu, mais ils n'ont pas forcément réussi. Est-ce que pour autant ce qu'ils ont dit doit être jeté à la poubelle? Mais vous savez, des fois on peut dire de très bonnes choses, mais les dire au mauvais moment, eh ben ça marche pas. Ils ont dit des choses excellentes. Là, ce qu'on va lire ce matin, c'est quelque chose d'excellent. S'il y a un verset qu'il faut que vous appreniez par cœur, c'est celui-là. C'est un des versets, moi, que j'ai appris par cœur. Job, chapitre 22, verset 21. Ce sont des choses excellentes, mais ils étaient dits dans un moment où Job, il avait besoin d'entendre des paroles pour l'encourager, pas pour lui reprocher. Il disait des choses excellentes, mais en gros, en sous-entendu, il disait, Job, toi, tu ne vis pas ça. Pourtant, il avait besoin d'entendre d'autres choses dans ces moments de deuil et de souffrance. Et de difficultés et même de problèmes de santé qu'il a connus. Mais ça ne remet pas en question la valeur de ses paroles. Alors, voilà ce que nous lisons. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le cœur, dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Hein? On est d'accord? On peut pas revenir sur la valeur de ces paroles, mais peut-être que le moment où ça a été placé, ça n'a pas trouvé l'effet escompté dans le cœur de Job parce qu'il avait besoin d'autre chose. Et Dieu, lui, par contre, il sait parfaitement ce que nous avons besoin d'entendre. Et ce matin, ce que nous partageons, je le crois de tout mon cœur, c'est ce que le Seigneur veut que nous entendions. En étudiant la Bible, je me suis aperçu que le Tout-Puissant, cette expression du Tout-Puissant, c'est dans le livre de Job que ça revenait le plus. On le voit parfois dans les psaumes, quelques livres de l'Exode, etc., la Genèse. Mais dans le livre de Job, il y en a, je ne sais plus combien, mais plus d'une dizaine, ou je crois même plus d'une vingtaine, de cette expression qui revient, parce que c'est cette réalité que les personnes de l'époque de Job avaient compris de Dieu. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alors ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est d'être à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant, on trouve une tente de paix. À l'ombre du Tout-Puissant, on trouve un trésor précieux. À l'ombre du Tout-Puissant, on trouve un torrent de promesses. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ce sont des choses qui me parlent. Et regardez ce qu'il est dit au verset premier. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? Se donner entièrement à Dieu, on peut voir ça comme ça, oui. Alors, parle plus fort, j'entends pas, j'ai le ventilo dessus. Marcher en tandem, oui, par exemple. Faire un. Littéralement, dans ce texte, attache-toi donc à Dieu, ça veut dire, le fait de s'attacher, ça veut dire utiliser souvent, avoir ses habitudes, être un familier, connaître intimement. Ça veut dire tout ça. Je me souviens quand je travaillais au Quick, à l'époque, donc j'étais derrière la caisse. Bon, j'aspirais après notre travail, forcément. Mais je me souviens, il y avait un client qui était là et qui revenait tous les mercredis soirs avec ses enfants. Il était seul, il n'avait pas son épouse, je pense qu'il y avait une histoire derrière. Et donc il amenait ses enfants au Quick tous les mercredis soirs. Il était devenu un habitué, un client VIP presque. Et donc je savais, à force qu'il vienne, je savais exactement ce qu'il allait commander à l'avance. Ce qui fait que quand je le voyais, je lui préparais la commande avant même qu'il ait dit la commande. Et du coup, il était content parce que ça allait très très vite. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là d'être un habitué. Lui, il était un habitué du Quick. Mais ce que je savais pas, c'est que il était le directeur des ressources humaines d'une entreprise, là où travaillait mon beau-père d'ailleurs. Et moi, j'aspirais à notre travail. Et bon, on a fait quelques démarches avec son aide pour cette entreprise. Et le jour de l'entretien, je tombe devant qui? Ben devant l'habitué du Quick. Et vu qu'il y a eu cette bonne relation, qu'on essayait de servir comme il faut les clients habitués, etc., on leur faisait des promos, et on était bien commercial comme il faut, eh ben il y a eu une facilité qui a été faite, mais Dieu savait tout ça à l'avance. Parce que, quand on lui remet sa vie, ben le Seigneur y conduit, c'est tout. Mais cet homme est un habitué du Quick, bon c'est bien, mais ça apporte pas forcément de grandes bénédictions. Mais combien c'est bon d'être un habitué de la présence de Dieu. Oh, j'ai mes habitudes dans la présence de Dieu. Je viens jour après jour devant mon Seigneur. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur me connaît parfaitement. Le Seigneur me connaît mieux que moi-même. Et combien c'est bon de pouvoir aller au devant du Seigneur, sachant que lui, c'est lui qui est toujours le premier d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça que ça veut dire. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Des fois, on veut avoir la paix sans s'attacher à Dieu, sans avoir nos habitudes avec Dieu. Vous savez que les habitudes, ça met du temps. Les habitudes, pour que ça devienne des habitudes, ça met du temps. Il faut quelques mois. Mais à partir du moment où on a réussi à résister dans les premiers mois, l'habitude est ancrée et on peut continuer. Alors, il y a des bonnes habitudes. Et puis, il y en a des moins bonnes. Mais s'attacher à Dieu, c'est la meilleure de toutes les habitudes qu'on peut avoir. À l'ombre du Tout-Puissant, il y a une tente de paix. C'est un lieu de paix. Alors, la question qui se pose, c'est quelle sorte de paix le Seigneur veut nous donner? Ben, c'est dit dans la suite, tu jouiras ainsi du bonheur. Quelle paix il y a dans le cœur d'être satisfait? Est-ce que vous avez un cœur totalement satisfait? C'est une bonne question, hein? Il peut y avoir des désirs, il peut y avoir des aspirations, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais il y a une promesse dans ce texte, tu jouiras du bonheur, tu auras le cœur satisfait, pleinement reposé, si tu te tiens à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des temps dans nos vies où nous pouvons posséder tout ce que notre cœur aspire, et puis pourtant ne pas être heureux. Ça m'est arrivé. D'avoir tout ce qu'un jeune homme désire, et puis pourtant avoir un vide quand même dans le cœur. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Dieu. Mais quand on s'approche du Tout-Puissant et qu'on le laisse nous parler et nous laver, et nous transformer, alors on jouit du bonheur. Alors il y a une paix, où même si autour de nous c'est trouble, et même si c'est difficile, on peut trouver la paix. Job, malgré toute sa souffrance, malgré toutes ses incompréhensions, au fond de son cœur, il avait quand même une assurance dans son Dieu. Il avait un refuge quelque part, où c'est qu'il savait qu'il pouvait trouver la paix. Même si c'était la lutte au dehors. Lutte au dehors de cet homme, mais il avait compris quand même que Dieu devait avoir cette place-là. Au verset 22, il est question de recevoir l'instruction de la part de Dieu. Est-ce que vous aimez que Dieu vous donne des instructions? Est-ce que vous aimez que Dieu vous donne des conseils? Est-ce que vous aimez que Dieu vous donne des avertissements? Est-ce que vous aimez que Dieu vous donne des ordres? Eh bien oui, il va jusque-là aussi. Hein. C'est pas Dieu pour rien. S'il est Dieu, il sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Alors on aime les promesses, on aime les conseils, on aime les avertissements même, mais on n'aime pas les ordres. Parce qu'on dit, non, moi personne ne doit me dire ce que je dois faire, je suis indépendant. Mais si on veut être au Seigneur, si on veut s'attacher au Seigneur, on doit apprendre à recevoir aussi ses instructions. Et ses instructions se trouvent dans sa présence, quand on s'attache à lui. Il nous donne la paix. Quand on sait qu'on est dirigé par le Seigneur, il y a une paix. Même si on ne sait pas ce qu'il en est autour de nous, même si c'est compliqué, on ne sait pas quelle décision prendre, si on s'attache à Dieu, on sait pertinemment qu'il va nous donner une parole pour nous conduire. C'est ce qu'il a promis. Regardez dans Ésaïe 55, verset 10, c'est un texte qu'on connaît bien. On peut dire que dans la tente de paix résonnent les paroles du Tout-Puissant. Quand je viens dans ce lieu-là, le Seigneur va me parler. Ésaïe 55, 10 nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Cette parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et le résultat, oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduit, comment ? En paix. Dieu veut nous conduire en paix, et comment est-ce qu'il nous conduit en paix ? C'est par sa parole qu'il nous transmet. Si j'accepte de recevoir la parole de Dieu, si j'accepte jour après jour de venir devant sa présence, et de dire « Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi », alors je vais avoir une paix dans le cœur, parce que je sais que le Seigneur va faire ce qu'il a promis. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Vous allez me dire, oui, mais des fois j'ai lu la Bible et ça n'a pas marché. Ben oui, parce que c'est pas en lisant la Bible que ça marche. Hein. Il faut lire la Bible, oui, mais il faut chercher Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Seigneur, qu'est-ce que je dois retirer de ce passage ? Seigneur, je veux comprendre ta parole, ouvre mon esprit. Quand Jésus est apparu aux disciples alors qu'il a été ressuscité et qu'ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait, ils avaient même peur de lui. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprenez toutes les Écritures ? Qui ce matin dit, moi, c'est bon, j'ai mon doctorat en théologie, je peux tout expliquer. Mais même vous, si vous avez votre doctorat en théologie, vous avez besoin que le Seigneur ouvre votre esprit. Peut-être qu'il n'y a personne qui a le doctorat, hein, moi je ne l'ai pas non plus. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu ouvre notre esprit, on voit les merveilles de sa parole. Et il y a une paix dans notre cœur qui s'installe, parce que quand on est dirigé, conduit par les paroles du Tout-Puissant, alors on est rassuré. Quand on passe un temps difficile et qu'on lit que le Seigneur est avec celui qui pleure, que le Seigneur est avec celui qui a le cœur brisé, est-ce que ça nous réconforte pas cette parole ? Combien de fois ça m'a réconforté ? Parce que je sais que c'est une réalité. Et je sais en plus que quand je suis consolé, par la suite je pourrai devenir une source de consolation pour quelqu'un qui vivra la même chose. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur, il change le mal en bien. Et c'est bon de s'attacher à lui. La paix, d'être dirigé, la paix aussi d'être pardonné. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Il y a une paix incomparable quand on vient devant le Seigneur et qu'on dit, Seigneur, il faut que les choses qui vont pas en moi puissent s'arranger. Vous l'avez fait, ça, un jour? Ça fait longtemps que vous l'avez fait? Vous n'osez pas me répondre, hein. Vous avez le droit de pas me répondre. C'est personnel. Mais est-ce que c'est pas tous les jours qu'on doit venir devant le Seigneur et éloigner de notre tente l'iniquité? La tente dans ce passage, c'est l'image de notre vie, hein. Et l'iniquité, c'est le péché, c'est le mal qui est en nous. Et le Seigneur nous invite à revenir à lui, à éloigner l'iniquité, c'est-à-dire, Seigneur, je renonce à faire le mal, je renonce à mes pensées mauvaises, je renonce à mes paroles méchantes, je renonce à toutes ces choses qui sont de ma chair, et je veux être transformé. Je veux avoir cette paix avec toi. Paul a dit, nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, et alors nous avons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons être en paix, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Alors, ce matin, venons dans la paix. Venons rechercher la paix du Seigneur. Venons dans la présence du Seigneur et goûtons à ce qu'il veut nous donner. À l'ombre du Tout-Puissant, il y a aussi le trésor le plus précieux. C'est ce que nous lisons au verset 24. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Oh, c'était facile pour celui qui avait subi de pertes financières de dire ça à Job qui avait tout perdu. Hein? C'était facile à dire quand même. Lui, il était là, il avait les poches remplies de billets, le porte-monnaie avec la carte bleue. Et Job, il était assis dans la cendre et les maisons s'étaient écroulées. Il avait perdu tous les troupeaux. Facile à dire quand même cette histoire. Mais derrière cette parole mal placée, il y a une vérité certaine, c'est que quels sont les trésors de la terre qui peuvent se comparer à la présence de Dieu? Quel trésor de la terre peut nous apporter de la consolation quand on perd quelqu'un? Quelle somme d'argent on donnerait? Non, t'inquiète pas, je vais te donner une somme d'argent, ça va aller mieux. Mais non, quand on perd quelqu'un, il y a rien. Rien qui peut apporter de la consolation, si ce n'est le Seigneur. Le Seigneur a promis qu'il serait avec nous, qu'il serait celui qui nous console, celui qui prend soin de nous, celui qui nous entoure de sa grâce dans ces moments-là. Qu'est-ce que, sur cette terre, qu'est-ce qui peut remplacer la présence de Dieu? Quelle activité sur la terre peut dire, bon, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin d'aller à l'église puisque je fais ça. Ah, je joue de la guitare, donc j'ai pas besoin d'aller à l'église. Est-ce que vous pensez que ça vaut, c'est équivalent? Ben non. Je joue la guitare dans l'église, c'est mieux. Mais même si je joue pas la guitare, il n'y a rien sur cette terre qui ne peut remplacer la présence de notre Dieu. Quand Dieu devient notre passion, quand tout le reste devient négligeable, c'est ça que nous dit ce verset. Est-ce que pour vous, le Tout-Puissant est votre trésor? Est-ce que vous avez découvert qu'en vous attachant à Dieu, en ayant vos habitudes avec Dieu, la chose la plus précieuse, c'est la présence de Dieu? Alors vous êtes heureux, parce que c'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous a indiqué. Dieu veut être notre richesse. Il veut pas augmenter notre compte en banque, forcément, c'est pas ça, mais il veut être notre richesse spirituelle. Même s'il peut pourvoir financièrement, il a déjà fait tellement de fois, mais il veut être notre richesse spirituelle. Il peut être notre richesse dans sa bonté, dans sa fidélité. On le dit souvent dans les psaumes, c'est répété. Le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que vous êtes levé un matin et vous avez trouvé qu'il manquait de bonté dans le coffre fort du ciel? Jamais. Tous les jours, il y a de la bonté disponible dans le coffre fort du ciel. Simplement, c'est à nous de venir la saisir. Il est riche en patience, il est riche en miséricorde, il est riche en amour. On voit toutes sortes de passages dans la parole qui nous parlent de ça. Ésaïe dit, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et avec la richesse de son amour. Vous voulez être traité comme ça? Aujourd'hui, on entend les gens qui se traitent de tout, mais nous, on veut être traité comme la maison d'Israël. Avec les compassions de Dieu, avec la richesse d'amour de notre Dieu. Il est riche, nous dit l'apôtre Paul, pour ceux qui l'invoquent. Vous aimez invoquer le nom du Seigneur? Vous le faites? Et vous avez goûté que quand on l'invoque, ben il exauce. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Parfois, on reçoit pas, Seigneur, mais tu n'as pas agi. Ben oui, mais tu n'as pas demandé. Demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur Jésus. Pour être riche, le conseil qui est donné là, c'est de jeter notre or. Et quand on étudie ce mot jeter, c'est pas en fait jeter, c'est plutôt déposer. C'est-à-dire, moi j'ai pensé au début que c'était une action rapide, vite, faut le faire avant de changer d'avis. Non, c'est quelque chose de calme, de réfléchi. Je pose l'or dans la poussière. Je le dépose. Je dépose ce qui pour moi a de la valeur, parce que je considère que Dieu a plus de valeur encore. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit d'ailleurs. Dans Luc 14, il a dit la même pensée d'une autre manière. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Est-ce que vous aimez votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, etc., etc. On est d'accord, on est tous pareils, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus les aimer? Non. Ça veut dire qu'il faut remettre les choses dans leur place. Dieu doit être en premier. L'amour que j'ai pour Dieu doit être en premier. Et parce que j'aime Dieu de tout mon cœur en premier, il va me donner tellement et tellement d'amour au mien. Mais si j'ai mis ma famille en premier, eh bien, l'amour pour Dieu va diminuer par contre. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, comme notre trésor. D'ailleurs, il le dit précisément, juste après, il donne cet exemple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer combien ça va me coûter? On ne construit pas une maison sur un coup de tête. Hein? Il faut aller à la banque, il faut se renseigner, faire des projets, des simulations de prêts, les ressources, les revenus, les dépenses, voilà, vous connaissez tout ça. Parce que ça marche comme ça. Et avec le Seigneur, c'est pareil. On ne choisit pas d'aimer Dieu sur un coup de tête. Ça ne tient jamais. On s'assoit, on réfléchit. Le Seigneur, aimer Dieu, ça me demande de renoncer à certaines choses, mais ça m'apporte aussi tellement. Ben, franchement, si on regardait que au coût du crédit, est-ce qu'on ferait des maisons? Quand on regarde les intérêts, bon, ils sont pas trop hauts en ce moment, mais il y a quand même des intérêts. Est-ce que, en regardant des centaines de milliers d'euros qui s'envolent de votre compte, vous allez faire une maison? Ben, on le fait quand même, pourquoi? Parce que derrière, on a une maison. Donc, si on regarde que l'argent qu'on perd, ben, on pleure. Mais si on regarde à la maison qu'on gagne, on est réjoui. Et souvent, on est là en train de pleurer parce qu'on perd ceci, on perd cela. Oh, le Seigneur me demande ça, c'est trop dur. Je n'en peux plus. Il me demande d'arrêter ceci ou cela. Oui, mais qu'est-ce qu'il te donne derrière? Il te donne tellement. Il te donne d'être avec toi. Il te donne. Et parfois, ça a amené certains. Je me souviens d'un monsieur musulman qui avait renoncé à sa religion parce qu'il avait compris que le Dieu Tout-Puissant s'était révélé au travers de Jésus. Et il avait du coup été abandonné par sa famille. Lui, il a vécu littéralement ça. Alors, il aimait toujours sa famille, mais il a fait le choix d'aimer Dieu plus que sa famille. Et le résultat, c'est que sa famille l'a totalement rejeté. C'est pas lui qui les a rejetés. C'est eux qui les ont rejetés, qui l'ont rejeté à lui. Mais dans l'église, il a trouvé une deuxième famille. C'est ce que le Seigneur fait quand on s'attache à lui de tout notre cœur. Faisons de Dieu notre trésor le plus précieux. Venons dans la présence du Seigneur et attachons-nous à lui. Trouvons sa paix. Et la troisième chose que je voudrais partager ce matin avec vous, c'est qu'à l'ombre du Tout-Puissant, on trouve un torrent de promesses. Un torrent, ça veut dire quelque chose en abondance. Et c'est quand on lit la suite du verset, on s'aperçoit de tout ce qui se passe, tout ce qui découle du fait qu'on fait de Dieu notre délice. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Quand on fait de Dieu nos délices, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il nous donne quoi? Il nous donne ce que notre cœur désire. C'est merveilleux ça. Il y a des désirs qui sont là sur notre cœur, mais quand on fait de Dieu nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. Et il y a toutes sortes de promesses qui sont données de la part du Seigneur. Regardez verset 27 par exemple. Tu prieras et il t'exaucera. Franchement, vous aimez être exaucé dans vos prières? Vous aimez faire toutes sortes de prières tous les jours et puis vous ne regardez pas si c'est exaucé ou pas? Non, mais on aime. Parce que quand on fait une prière, c'est pour être exaucé. Et on sait que Dieu désire donner. Tu prieras, il t'exaucera. C'est tellement simple. Tu accompliras tes vœux et à tes résolutions répondra le succès. Le Seigneur désire que dans les projets que nous formons, bien sûr des projets sages, prudents, intelligents, respectueux de ses valeurs, hein, parce que on peut faire avoir toutes sortes de projets. Je prends le projet de dépouiller ceux qui sont autour de nous. Dieu va pas nous aider, hein, ça c'est sûr. Mais quand ce sont des projets intelligents et qui sont dans le cadre de sa parole, ben le Seigneur va nous donner du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le Seigneur promet de nous éclairer. Vous avez déjà vécu des temps dans vos vies où vous ne savez pas ce qu'il va être demain. Vous ne savez pas où c'est que vous devez aller. Vous ne savez pas où c'est que le Seigneur vous conduit. Vous êtes là et vous avez l'impression que c'est un mur, que c'est noir, que c'est sombre. Et vous êtes totalement perdu. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi je sais. J'ai vécu. Je peux vous dire que ce n'est pas très agréable. Mais c'est merveilleux parce que dans ce temps-là, je suis allé à l'église. À un moment donné, c'était mon habitude, j'y allais, mais là, le Seigneur m'attendait au rendez-vous, il y a eu un parler en langue, il y a eu une interprétation, et ce que j'avais dit dans ma chambre, Seigneur, j'ai l'impression que je suis dans les ténèbres, je vois pas mon avenir. Et la personne qui a interprété a dit, et j'ai compris que Dieu me parlait, tu as l'impression d'être dans les ténèbres, tu as l'impression de ne pas voir le bout, mais ne t'inquiète pas parce que je vais éclairer tes pas. Pas après pas, étape après étape. Donc fais-moi confiance. Ouf. J'étais là et j'ai dit c'est bon. Seigneur, tu m'as entendu. T'as entendu ma prière. Et il l'a fait en plus. Il me l'a pas seulement dit, mais il l'a fait. Au fur et à mesure, les choses se sont éclaircies devant mes pas et j'ai pu prendre les bonnes décisions parce que je me suis appuyé sur Dieu. Tout simplement. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je sais ce que ça veut dire. Et je sais que plusieurs parmi nous ont vécu aussi cela. Et c'est tellement merveilleux de savoir qu'on a un Père qui brille de sa lumière sur chacun de nos pas. Vienne l'humiliation et tu prieras pour ton relèvement. Ah, enfin une parole qui correspond à quelque chose. Ouf, c'était un peu lourd là pour Job. Enfin il entend quelque chose qui peut lui faire du bien. Quand il y aura l'humiliation, ben oui, je suis en plein. Hein. Job, il aurait pu dire, regarde, je suis en plein dedans. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Et combien c'est vrai. Je ne sais pas si votre regard est abattu ce matin. Des fois, notre regard ne trahit rien, mais notre cœur l'est tellement abattu. Mais Dieu secourt toujours celui dont le regard est abattu. Parce qu'il se plaît à manifester sa grâce dans ces moments-là. Quelle succession de promesses le Seigneur nous donne. Et regardez même, ce verset m'a interpellé. Dans ce contexte-là, de l'ami de Job qui vient le consoler, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Eh bien, vous savez quoi? L'ami de Job, il est en train de parler de lui, là, sans s'en rendre compte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire de Job? Dieu lui a dit, bon, Job, tu n'as dit aucune parole mauvaise. Par contre, tes amis, là, c'est pas terrible. Donc il faut que tu offres un sacrifice et que tu pries pour eux, pour que je les pardonne. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur va te relever, même il va t'utiliser pour être une bénédiction pour celui qui est coupable. Sauf qu'il se rendait pas compte que c'était lui qui était coupable, l'ami en question. Mais quand on fait du Seigneur notre délice, quand on s'approche de lui, quand on le laisse briller dans notre vie, quand on est dans sa paix, ben le Seigneur veut se servir de nous. Le Seigneur va se servir de nous, c'est une certitude. Vous pouvez dire, ah, mais je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai pas beaucoup de compétences, je ne connais pas grand-chose à la Bible, mais c'est pas grave. Si vous êtes attaché à Dieu, si vous aimez la présence de Dieu, si son esprit habite en vous, alors vous inquiétez pas, ça va se faire naturellement. Parce que le Seigneur cherche des bons et fidèles serviteurs. Vous vous souvenez cette histoire, cette parabole du Seigneur? À la fin, il va dire à l'un, serviteur méchant et paresseux. Vous aimeriez entendre cette parole du Seigneur quand il viendra vous chercher? Serviteur méchant et paresseux, tu as négligé, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Ouf. Ou alors, vous préférez, comme moi, entendre l'autre parole. Entre serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est ça que je veux entendre, Seigneur. Je veux être utile. Oui, ça va passer par des temps d'humiliation, ça va passer par des temps de difficulté, mais regardez Job. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Job? Eh bien, à la fin de son épreuve, il a écouté la voix de Dieu et il est sorti de la tempête. Et il a eu beaucoup plus que ce qu'il possédait avant. Il a eu des fils et des filles en même nombre que ce qu'il avait perdu. Le Seigneur l'a parfaitement consolé parce que il a connu, il est demeuré dans cette tente de paix de son Seigneur. Est-ce que ça vaut la peine de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant? La réponse est oui. Et je vous exhorte ce matin à rechercher de plus en plus cet endroit-là, qui n'est pas un endroit physique sur la terre, mais qui est un endroit dans notre cœur, où nous savons que nous demeurons près de notre Seigneur, et que nous comptons sur sa puissance, et que nous comptons sur ses promesses, et que nous comptons sur sa paix, et que nous comptons sur sa direction, et on pourrait multiplier tout ce que le Seigneur fait. Mais ça vaut la peine d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Et peut-être quelqu'un ce matin s'est écarté de cette ombre. Peut-être quelqu'un a connu la présence de Dieu, mais s'en est écarté, éloigné pour quelque raison que ce soit. Le Seigneur vous exhorte à revenir à l'ombre du Tout-Puissant, à demeurer, à trouver refuge dans sa présence, parce qu'il vous aime, il vous veut près de lui. Le Seigneur vous invite à avoir vos habitudes dans son temple, à être un habitué de son trône pour intercéder, pour prier, pour crier à lui. Et alors que vous prierez, vous verrez son exaucement. Il n'y a rien qui fait grandir plus la foi que de voir des prières exaucées, que de voir un Dieu qui répond à la prière. Il n'y a rien qui n'encourage plus notre cœur que de voir qu'il y a un Dieu qui nous entend et qui fait selon ce que nous demandons. Merci Éternel. Parce que ce matin, tu es là dans ce lieu. Nous sommes ce matin à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes ce matin sous les rayons doux et bénéfiques de ta lumière. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour ces conseils qui sont là et que nous voulons serrer sur notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin d'éloigner l'iniquité de notre tente. Seigneur, merci pour la paix que tu donnes. Oui, nous savons que cette paix avec toi, elle est possible par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Merci pour le bonheur, la grâce qui nous accompagne tous les jours. Merci parce que tu es le Dieu qui dirige tes enfants et qui les conduit. Même dans les temps de trouble et de confusion, tu es là. Tu éclaires pas après pas, Seigneur, le chemin, parce que tu es fidèle. C'est sur toi que nous voulons compter dans ces instants. Et tu connais les situations des cœurs. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont frappés par le soleil, lourd, Seigneur, de l'épreuve. Mais tu es le Dieu qui veut mettre tes enfants à l'abri, à ton ombre, Seigneur, sous tes ailes. Oh, viens, Seigneur, bénir tes enfants, et que, Seigneur, ce matin, ils puissent expérimenter les bienfaits de ta présence. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen.